accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Voulez vous prendre ceci, je vous prie. Ce sont des pilules, ça vous soignera.
Bonjour, le système de santé bulgare est en crise. Sous-financé, exsangue en raison de l'exode massif de ses médecins et de ses infirmières et surtout miné de l'intérieur. Depuis que le gouvernement a introduit en 2010 la concurrence privée à côté mais aussi au sein de l'hôpital public, la logique comptable est devenue reine au détriment des patients. C'est un reportage à Sofia de Frédéric Lebel.
Ils se sont donné rendez-vous sur les marches de l'hôpital pédiatrique du docteur Ivan Mitev. Blouse bleue, blanche et verte, médecins et infirmières, tous épuisés par les journées à rallonge et les salaires de misère. En première ligne, le docteur Andrei Kotsev, le syndicaliste, est venu motiver les troupes et il n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour nous expliquer son ras-le-bol.
Je suis médecin depuis plus de 15 ans et je gagne moins de 1000 euros. Et ça n'est pas normal, surtout avec les conditions économiques actuelles, parce que les prix grimpent en Bulgarie, mais les salaires stagnent. Et cette situation, elle n'est bonne ni pour les médecins, ni pour les infirmières, ni pour les patients.
Beaucoup ont déjà déserté ce système de santé à bout de souffle. 30 000 infirmières sont parties travailler à l'étranger et chaque année, 400 à 500 médecins quittent le pays. Une option à laquelle le docteur Kotsev a déjà pensé.
Franchement, oui, j'y ai déjà pensé. Mais j'aime ma vie ici en Bulgarie. J'ai mes amis, j'ai ma famille. J'aime la nature, j'aime mon pays. Et je crois que si vous avez des soucis dans votre maison, vous ne devriez pas aller chez le voisin. Vous devez réparer ce qui ne va pas chez vous. Si tout le monde était parti aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'est-ce qui serait passé? Alors je dis bravo à tous les Bulgares qui restent ici pour se battre.
Adil Kazem est de ceux-là. Cette pédiatre, originaire d'Irak, a le sentiment de travailler avec des collègues constamment au bord de la crise de nerfs, des médecins obligés d'accumuler deux ou trois emplois pour s'en sortir et des infirmières aussi qui en font trop et trop longtemps.
Beaucoup de nos infirmières ont plus de 60 ans. Elles devraient être à la retraite, mais elles travaillent toujours. On a même des infirmières qui ont 70, 75 ans. Nos infirmières travaillent pour 300 euros par mois et ce sont des infirmières extrêmement qualifiées, spécialisées dans la pédiatrie, associées étroitement au diagnostic et au traitement. Alors vous ne pouvez pas les bouger comme ça d'un service à l'autre. Si elles travaillent avec les patients diabétiques, ils ont un traitement, des besoins diététiques différents des autres malades.
Mais ce n'est pas seulement parce que la Bulgarie dépense par habitant 2,5 fois moins que la moyenne européenne que tout part à volo. En 2010, le gouvernement a introduit un contrôle budgétaire sur les hôpitaux. Un système absurde où le budget dépend du nombre de malades, mais aussi du type d'opération ou d'examen. Certaines interventions sont donc rentables, d'autres non. Docteur Adil Kazem.
Si vous avez un enfant qui fait une attaque et que vous cherchez à en comprendre la cause, la première chose que vous devez faire, c'est un scanner et une IRM. Mais le prix de l'un de ces deux examens équivaut à ce que la sécurité sociale nous paie pour l'ensemble des soins et toute la durée d'hospitalisation de ce patient. Nous sommes devenus des entreprises commerciales et nous avons de l'argent qui rentre. Et nous devrions même faire des profits, ce qui est inacceptable pour des soins pédiatriques.
L'économie de marché prend aussi la forme de prestations privées au sein de l'hôpital ou bien de cliniques privées adossées à ces mêmes hôpitaux qui cherchent bien sûr à récupérer les interventions les mieux remboursées par la sécurité sociale. Une course désespérée quand on sait que la plupart des tarifs n'ont pas été réévalués depuis plusieurs années. Résultat, on est bien face à un système de santé à deux vitesses. Selon la Banque mondiale, les patients bulgares sont obligés de contribuer pour plus de 40% à leurs dépenses de santé. À l'Académie des sciences, l'économiste Iskra Beleva ne peut que constater les dérives d'un système de gestion qui, loin de maîtriser les coûts, génère de nouvelles inégalités.
Le système tel qu'il existe actuellement pousse tous les acteurs du système de santé à rechercher constamment plus d'argent plutôt que de se concentrer sur le bien-être du patient. Même le patient lui-même est perçu comme une source de revenus. On lui demande tout le temps de payer en plus. Et quand il paye, alors là, tout va très bien. Il peut être assuré d'avoir les meilleurs médecins, les meilleures infirmières, les meilleurs soins.
Enfin, pour compléter ce tableau chaotique, le taux d'hospitalisation en Bulgarie est un des plus élevés d'Europe. Faute d'un maillage suffisant de généralistes, tout repose encore une fois sur l'hôpital et ses services d'urgence.
En Scandinavie, les systèmes de santé affrontent l'épreuve de l'âge. On parle pourtant de systèmes parmi les plus performants au monde. Mais en Finlande, en Suède et au Danemark, la population vieillit rapidement et l'avenir des services de santé a d'ailleurs été au cœur des dernières élections législatives dans ces trois pays, Anne-Françoise Hiver.
En Finlande, le Premier ministre sortant, le centriste Juha Sipilä, a symboliquement présenté sa démission un mois avant les élections du 14 avril, après l'échec de sa réforme de la santé et des services sociaux. C'était le plus gros chantier de sa mandature, jugé trop ambitieuse et pas assez réfléchie, avec le risque d'accroître encore plus les inégalités qu'elle était censée réduire, elle allait être rejetée par les députés. Le nouveau chef du gouvernement, le social-démocrate Antti Rinne, a promis de s'y remettre le plus rapidement possible. Car le temps presse. Dans les trois pays, le constat est le même. Face au vieillissement rapide de la population, le financement de la santé est menacé. Les coupes budgétaires menées depuis les années 90 n'ont pas aidé, surtout lorsque le coût de certains traitements augmente. Manque d'infirmières, file d'attente qui s'allonge à l'entrée de certains services, des patients poussés vers la sortie le plus rapidement possible et la privatisation qui guette. Dans des pays inégalement peuplés, l'équation est compliquée à résoudre, notamment dans le Nord, où la fermeture des cliniques et maternités ces dernières années accélère encore plus la désertification. Le gouvernement suédois, composé des sociodémocrates et des Verts, vient d'annoncer qu'il allait débloquer 100 millions d'euros pour réduire les files d'attente. Au Danemark, la social-démocrate Mette Frederiksen a promis d'embaucher 1 000 000 d'infirmières supplémentaires. Au cœur du débat, le financement de ces systèmes de santé. Faut-il renoncer au sacro-saint équilibre des finances publiques ou bien relever les impôts? Deux alternatives tout aussi impopulaires.
La Slovénie a longtemps été louée pour la qualité de ses services de santé. Mais au printemps, les médecins généralistes ont lancé une grève inédite pour dénoncer l'explosion des heures supplémentaires. En cause, l'émigration massive des jeunes professionnels. Explication de Simon Rico.
De prime abord, le système de santé slovène pourrait sembler idyllique. Mortalité infantile parmi les plus basses au monde, qualité des opérations reconnues et médecins réputés pour leur excellente formation. La Slovénie est même l'un des pays les plus performants au monde pour certains traitements comme celui des nouveau-nés prématurés. Mais c'est côté effectif que le bas blesse, le pays reste en queue de peloton du classement de l'OCDE avec 30 médecins pour 10 000 habitants. Il faut dire que de plus en plus de généralistes quittent la Slovénie. Les praticiens de Styrie et de Carinthie ainsi passent facilement la frontière pour aller exercer en Autriche. L'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni et les pays scandinaves sont les autres destinations les plus prisées. La Chambre médicale de Slovénie émettrait chaque année une petite centaine de certificats autorisant des personnels soignants à pratiquer hors de ses frontières. Un chiffre non négligeable au regard des quelques 300 diplômés qui sortent de chaque promotion de l'université de médecine. Face à cet exode, qui touche surtout les jeunes professionnels, le nombre de patients traités par les généralistes a explosé ces dernières années. Le nombre maximal de patients attribués à un généraliste était de 1895 en 2018. Il est passé à plus de 2000 en 2019. Face à cette hausse, leur syndicat, le Fides, a lancé une grève au printemps, invitant les généralistes à ne plus dépasser le nombre maximal d'heures travaillées par semaine. L'objectif, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de réformer le système de santé. Face à l'urgence de la situation, le ministre de la Santé, Aleš Šabeder, a annoncé l'adoption d'un décret autorisant 91 médecins étrangers à s'installer en Slovénie. Des médecins qui viendront probablement des pays issus de l'ancienne Yougoslavie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie ou Macédoine, comme c'est le cas depuis la disparition de la Fédération socialiste. Aujourd'hui, plus de 500 généralistes étrangers travaillent en Slovénie et leur nombre devrait continuer de croître dans les années à venir pour compenser l'exode des locaux.
C'est une maison unique en France, la maison SATED, pour soutenir l'autisme et les troubles envahissants du développement. Elle se situe dans le nord du pays, à une vingtaine de minutes d'Amiens, à Belloy-sur-Somme. Ce centre de loisirs est spécialement adapté pour accueillir les week-ends ou pendant les vacances des enfants autistes, mais il permet aussi à leurs parents de souffler un peu. Un reportage de Lise Verbeek.
Bonjour. Un bisou. Ça va ?
Tu fais un bisou à tout le monde, hein, Joe ?
Un bisou, fille aussi. Bonjour, José.
Il est 10h ce matin-là et les parents se succèdent pour y déposer leurs enfants autistes. Ils seront 7 à passer 4 jours dans ce centre de loisirs, une grande et jolie maison, fraîchement réhabilitée depuis quelques mois.
Tu te calmes un petit peu ?
Tu te calmes un petit peu ?
Oui, mais tu m'achètes avec un bisou, oui, je le sais.
Le rituel est le même pour les enfants qui connaissent déjà le lieu. Un bisou claqué sur la joue des 12 animateurs et ensuite direction les chambres, la salle de jeu ou encore le réfectoire. Ils vont et viennent d'une pièce à l'autre, toujours suivis par un animateur. La plupart sont excités d'être là, mais aussi très intrigués par le micro, comme Amaury.
Bonjour, je vous aime beaucoup.
Tu as quel âge ?
11 ans.
Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire là aujourd'hui ?
Je sais pas quelle activité. Je vais à la piscine.
Est-ce que tu aimes bien la piscine ?
Oui. J'aime beaucoup la piscine.
Alors donc notre fils est autiste et donc bah, il vient, on l'inscrit régulièrement pour qu'il passe soit des week-ends, soit des petites vacances.
Christelle, sa maman.
Il a besoin d'être avec d'autres enfants, d'apprendre l'autonomie, enfin bon voilà. Et ici, eh bien, à la maison SATED, c'est un petit peu comme un petit établissement en fait. Donc, c'est plus axé sur le loisir, sur bon voilà, mais bon voilà, il y a quand même la collectivité, il y a les règles à respecter, bon voilà, c'est important.
Le couple fait une heure de route pour venir déposer Amaury ici. Il y a dans la région un manque criant de structures pour les enfants autistes.
On a eu des grosses difficultés, comme beaucoup de parents d'enfants autistes et handicapés, on va dire, en règle générale. Amaury a été déscolarisé à 5 ans. Donc maintenant, eh bien, il est, hélas, il est en hôpital de jour. Mais en fait, ça provoque aussi de l'angoisse pour nous et puis bah, pour lui aussi, hein, forcément. Donc ça décuple aussi ses comportements, ses troubles. Un enfant qui n'est pas du tout sûr de lui, bon, alors qui pose plein de questions, mais qui peut, voilà, ça peut être dans l'opposé, c'est-à-dire voilà, en boucle. Ça ne s'arrête jamais, même si vous lui répondez, bon voilà.
Ces 4 jours sont l'occasion aussi pour Christelle et son mari de se reposer et de partir à la mer.
C'est bien pour eux, mais c'est bien aussi pour les parents pour pouvoir souffler un petit peu. C'est vrai que, bon, c'est fatigant au quotidien. Alors nous, bon, il y a beaucoup d'enfants qui sont pas ce qu'on appelle parlants. Le nôtre est parlant, mais c'est pas pour ça que c'est beaucoup plus. voilà, il reste les troubles et il reste forcément au quotidien, c'est très très compliqué à gérer. Nous, on est 2, mais il y a beaucoup de familles monoparentales aussi. Nous, on arrive à se relayer, voilà, mais bon, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant.
Ah non non.
Durant le séjour, les enfants vont aller à la piscine, faire du poney ou encore de la cueillette de fraises, encadrés par des animateurs comme Pierrot qui fait cela depuis 3 ans.
On a des enfants au niveau des repas qui ne mangent pas mélangés, donc on sait qu'il faut séparer les aliments. On a plein de stratagèmes, par exemple... Attends. Quentin, faut pas rester à côté de lui quand on est couché. Voilà, une fois qu'il est dans son lit, il veut être tranquille. On sait qu'on doit pas rester à côté de lui. Enfin, plein de trucs comme ça. C'est vraiment, je pourrais vous en citer plein des petites stratégies, des petites billes comme ça qu'on s'est créées au fur et à mesure des actions SATED.
Là, vous avez donc la seule chambre PMR, donc mobilité réduite. Voilà. C'est le lit d'une enfant en fait qui est en situation de polyhandicap.
Cette maison Sathède, c'est le bébé de la présidente de l'association Ingrid Dordain, elle-même maman d'une enfant autiste.
Ça a été le parcours du combattant et c'est pas fini. Le projet a émergé dans nos têtes hein, il y a une dizaine d'années. On a cherché une maison, on en a trouvé une. Ensuite, on a eu de la chance puisque la fondation Bettencourt-Schouler nous a suivis. Donc c'est le premier gros financeur en tout cas qui nous a suivis et ça a été le déclencheur pour le reste. On était sur un budget de 150 000 euros et 400 000 pour la maison. On s'est vite fait dépasser également puisqu'aujourd'hui on est sur 1 400 000 à la fin du projet. Ça a été vraiment, on va dire, 3 années de travail intensif entre l'achat de la maison, la réalisation des travaux. Ça a été vraiment un gros travail.
Et ce n'est pas terminé car l'association a encore besoin de financement pour faire vivre la maison, car les familles contribuent à hauteur de 100 euros par jour, mais sur chaque séjour, l'association est déficitaire de 500 à 1500 euros.
Proprio vicino qua, la nave ha toccato terra. La storia del viaggio è cominciato con il nostro barco, quando è sbarcato qua.
L'ancien plus grand centre d'accueil de migrants d'Europe, situé à Mineo, près de Catane, dans l'est de la Sicile, ferme officiellement ses portes ce mardi. C'était une promesse du ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, l'homme fort du gouvernement farouchement anti-migrant. Cette politique, elle ne fait pas l'unanimité en Italie. À l'opposé de Matteo Salvini, il y a ceux qui accueillent, comme le maire de Riace, en Calabre, Domenico Lucano. Cela lui vaut d'ailleurs des ennuis avec la justice, Anastasia Becchio.
Un autre modèle de société est possible, tel est le leitmotiv de Domenico Lucano, maire en exil de Riace. L'expérience de l'accueil des migrants a débuté il y a 20 ans par l'arrivée d'une embarcation sur les côtes du village, comme le raconte lui-même Domenico Lucano dans un documentaire italien.
Je me souviens que ce voilier était un peu incliné sur un côté. De nombreuses personnes ont commencé à en sortir. C'était l'été 1998 et un de mes amis m'a demandé de l'aide car il n'y avait rien. On s'est mis à distribuer des sandwichs aux migrants et c'est comme ça que je suis devenu l'ami des Kurdes.
À l'époque, Domenico Lucano, qui n'est que conseiller municipal d'opposition, organise une communauté d'accueil, Città Futura, avec des ateliers d'artisanat destinés à faire travailler les nouveaux venus. Le village, qui se vidait de ses habitants, reprend vie. Les écoles et les services publics rouvrent. Rapidement, la notoriété de Domenico Lucano dépasse les frontières de la Calabre. Cité parmi les 100 personnalités les plus influentes par le magazine Fortune en 2016, il inspire un court-métrage à Wim Wenders, puis un film documentaire sorti l'an dernier.
Et Dieu a voulu qu'on nous amène ici et nous en accueille.
En tournant son documentaire sur le village de Riace, un paese di Calabria, avec Catherine Catella, la réalisatrice Shua Yelo a beaucoup côtoyé Domenico Lucano.
On l'appelle Mimo, on l'appelle aussi le Kurdo, parce que les premiers arrivants à Riace qui ont été installés dans les maisons étaient des Kurdes. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui suscite pas mal de passion et dont l'image, bon, dans l'ensemble, une très bonne image parce qu'il a vraiment sauvé le village, on peut dire vraiment d'une mort certaine. Et puis, il a aussi des opposants, un petit pool d'opposants qui n'acceptent pas de voir transgresser les lois de la Calabre, qui sont des lois plutôt de fermeture que d'ouverture.
Parmi ses principaux ennemis, la mafia calabraise, mais aussi le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini.
Au maire de Riace, je ne dédie même pas la moitié d'une pensée. Zéro, c'est un zéro.
Une déclaration du patron de la Ligue du Nord qui sonnait comme un avertissement. Les ennuis judiciaires du maire de Riace ressemblent bien à un règlement de compte, estime Hervé Reiner, maître de conférence à l'université de Lausanne, spécialiste de la politique italienne.
Lorsque le ministre de l'Intérieur, donc Matteo Salvini, a envoyé un document d'une vingtaine de pages listant des accusations à ce maire, hein, l'accusant d'aide à l'immigration clandestine, de mariage blanc, de détournement de fonds, etc., etc., il s'en prenait à quelqu'un qui avait déjà valeur de symbole, hein, parce que ce qui se passe à Riace depuis une vingtaine d'années maintenant, hein, avant même qu'il devienne maire, hein, il était déjà à Riace, militant, c'est un ancien enseignant, il était déjà une figure reconnue et même à une échelle internationale. Et puis lui-même avait aussi prononcé des attaques contre Salvini. Dans ce village, hein, il y a beaucoup de fresques. Hein. Parmi ces fresques, il y en avait une qui prenait en dérision le leader de la Ligue. Donc il y a vraiment une dimension règlement de compte.
Le parquet de Locri a inculpé Domenico Lucano d'incitation à l'immigration. Mimo Lucano ne baisse pas les bras et compte poursuivre l'expérience en s'appuyant sur le tourisme solidaire et en faisant appel à des aides internationales.
Accent d'Europe à la réalisation. Olivier Roux, vous réécoutez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, on se retrouve ici demain à la même heure.